Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu, Charles.
Ben oui, parce que j'ai pris des vacances, ce qui est tout à fait impardonnable.
Oh non, c'est tout à fait pardonnable et c'est tout à fait pardonné. Et c'est d'autant mieux si vous revenez en pleine forme pour attaquer d'emblée, surtout avec un sujet aussi enflammé que le premier dont je vais parler, qui est un gros dossier d'ailleurs, qui est le sujet de la Seine-Saint-Denis. Donc, il y a un mois environ, Thierry Henry nous avait prévenu, Saint-Denis, c'est pas Paris. Il avait dit ça sur une chaîne de sport américaine, parce que tout le monde pensait que, en fait, le Stade de France, où se déroulait donc la finale de la Ligue des Champions, était à Paris, et c'est un abus de langage.
Et des Jeux Olympiques.
Et des Jeux Olympiques d'ailleurs. Ça n'est pas à Paris, c'est à Saint-Denis. Et donc, Thierry Henry faisait la remarque, il y a eu une grosse polémique par rapport à ça, le maire de Saint-Denis a dit, mais vous rendez compte, c'est une ville incroyable où il y a 400 milliards de nationalités, c'est génial et tout. Bon, d'accord, ok. Maintenant, l'événement est passé, cette fameuse finale de la Ligue des Champions est passée et on a vu justement ce qui s'était déroulé ce soir-là. Donc, finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, qui déjà fut reportée de 36 minutes. On entendait parler à ce moment-là de faux billets, de petits problèmes d'organisation, donc rien qui nous rende bien fiers, mais c'était pas le drame derrière qui était annoncé, surtout par les images qui nous sont parvenues ensuite pendant la soirée et les jours suivants. Images qui montrent d'une part une brutalité extrême dont les supporters furent victimes, d'autre part la violence gratuite de certains policiers aussi sur des supporters qui avaient l'air plutôt calmes, et encore d'autre part le fait que des jeunes de banlieue sont entrés sans ticket avec la complicité de certains vigiles. Donc je rappelle, pour vraiment illustrer cette thématique, cette phrase que j'aime beaucoup de Charles Péguy, il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout par rapport à la vision qui nous est imposée de cet événement par le gouvernement, notamment la personne de Gérald Darmanin, qui voit des Anglais partout, qui voit des Anglais parmi les agresseurs, qui voit des Anglais qui ont pris, selon lui, 40 000 faux billets, alors que c'est 3 000 selon l'UEFA et la Fédération Française de Football. Et d'ailleurs, les chiffres d'affluence autour du stade, selon la RATP, n'allaient pas du tout à 120 000 personnes. C'est-à-dire que le Stade de France, il y a entre 75 et 80 000 places. Donc, s'il y avait 40 000 faux billets, il y aurait eu au moins 120 000 supporters autour du Stade de France. C'était pas du tout les chiffres de la RATP qu'il constatait sur ces quais de gare. Donc qu'est-ce que ça vous dit cet événement et surtout la perception qu'on est obligé d'avoir apparemment selon le gouvernement de cet événement?
C'est quelque chose que vous savez parfois les... Bon, c'est un incident, c'est pas, il n'y a pas eu mort d'homme, grâce à Dieu. Mais ça montre une chose, c'est ce que disait, je l'ai déjà dit, mais enfin je vais le répéter, c'est ce que disait Solzhenitsyn du régime communiste à la fin de sa vie, à la fin de la vie du régime communiste. Ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons, et ils continuent à mentir. C'est-à-dire que ce que dit Darmanin, c'est qu'il sait très bien que c'est un mensonge. Il sait que nous savons que c'est un mensonge, mais ça lui permet de continuer à mentir et de ne pas regarder la réalité. C'est la phrase de Péguy que vous avez utilisée. Il ne voit pas ce qu'il doit voir. Quoi. Donc, parce que le verrait-il, il devrait donner sa démission. Parce que il n'est pas responsable, mettons que si c'était des voyous anglais qui étaient venus, des hooligans anglais, moi j'ai vécu 20 ans en Angleterre, j'ai jamais vu un incident comme ça en Angleterre, il y avait de temps en temps des Grecs qui allaient casser quelques Français ou Allemands qui passaient par là, mais enfin ça restait dans des proportions raisonnables, si j'ose dire. Et donc on est devant quelque chose de complètement révélateur, c'est-à-dire un mensonge, donc tout le monde sait que c'est un mensonge. Et ce qui m'a le plus surpris là-dedans, c'est quand Darmanin a commencé à dire que c'était les Anglais, la presse française emboîtait le pas.
Oui.
Ce qui est pour moi la plus surpris, parce que elle savait que c'était pas vrai. Donc la presse française aussi se met dans la position de Vestia ou de la Pravda, c'est-à-dire que tout le monde sait que tout le monde ment, mais on continue à mentir parce que sans ça, le régime s'écroule de lui-même.
Oui.
Donc on est en train d'arriver dans une espèce de période tout à fait extraordinaire où tout le monde sait que c'est un théâtre d'ombre, tout le monde sait que c'est des villages Potemkin, tout le monde sait que la Seine-Saint-Denis est en état de cessation permanente par rapport à la République, tout le monde sait qu'il n'y a aucun ordre qui n'y règne si c'est l'ordre des mafias, mais tout le monde fait comme si c'était pas vrai. Et donc c'est extraordinaire cette espèce de refus de regarder la réalité. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai l'impression que tous ces gars-là vivent dans une espèce de monde virtuel dans lequel ils sont, avec les médias, les forces de l'ordre, et que la réalité, c'est une des possibilités, mais c'est une parmi d'autres. Donc ils vivent dans un monde très curieux.
C'est ce que j'ai observé aussi, c'est que l'importance vraiment donnée à l'événement nous parvient notamment grâce à la presse étrangère. C'est-à-dire que le soir, la presse française emboîtait le pas, comme vous disiez, et il y a eu une surréaction, notamment de la presse anglaise, et de plusieurs autorités, notamment des fans de Liverpool, etc. Qui,
et le maire de Liverpool qui a porté plainte, je crois.
Oui, c'est possible.
Je crois qu'il a porté plainte.
Ça me semble aussi. Et puis aussi, donc beaucoup de supporters qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour décrire leur calvaire. Donc, il y a le récit d'un policier, par exemple, je vais vous le lire. Donc, ça nous vient du Figaro. Donc, le Figaro qui, justement.
En principe, est plutôt pas. Enfin, je sais pas ce qu'il est, le Figaro.
Pas extrémiste comme journal. Donc, vol, violence, gestion et communication calamiteuse. En tirant les enseignements du fiasco au Stade de France, les autorités et les instances sportives devront mieux anticiper les prochains rendez-vous, notamment les Jeux Olympiques. Le patron du syndicat Synergie Officier confie : les collègues n'ont jamais vu cela. Au départ, ceux qui enjambaient les barrières étaient plutôt des locaux. Mais rapidement, d'autres profils se sont illustrés, dont des mineurs ou pseudo-mineurs étrangers ultra-violents. Selon lui, ils attaquaient sans hésiter les femmes, les enfants, les personnes âgées. Des victimes ont été déshabillées intégralement. Parmi ces prédateurs, beaucoup de jeunes Algériens, quelques Marocains et Tunisiens également. Dans les environs du stade, tout un tas de voitures ont été saccagées, roulottées. Nous ne pensions pas qu'un tel déferlement soit possible dans un contexte festif, d'autant que les choses se sont plutôt bien déroulées dans les fan zones à Paris, reconnaît un policier. Ce n'était plus du maintien de l'ordre, mais clairement de l'anticriminalité et de la lutte contre les violences urbaines, et cela, c'est totalement nouveau. C'est dire s'il va falloir revoir la stratégie pour les JO de 2024 notamment.
Et il y a la Coupe du Monde de rugby l'an prochain. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui va se passer, dont la finale se jouera au Stade de France.
Effectivement, oui.
Donc, c'est pas... Mais je veux dire un truc, c'est que les supporters du rugby sont pas les supporters du football. Donc, à mon avis, ils seront peut-être calmer les gamins.
Ce sera sûrement un peu plus calme, je pense. C'est vrai que la Ligue des Champions, enfin, la culture footballistique est devenue aussi une culture très...
Et puis les supporters rugby ont tendance à être robustes parce qu'ils ont joué au rugby aussi.
Aussi, oui, ça arrive très souvent.
Et puis s'il y a une bagarre qui arrive, si vous voulez, ils se précipitent pour demander s'ils peuvent y participer. Quoi,
ça arrive très souvent. Mais alors, parfois, de tout temps, on a déjà vu des violences entre supporters. Donc c'est un phénomène qui est aussi footballistique, sauf que là c'est pas du tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que même ce qu'on a vu c'est plutôt des supporters de Liverpool et du Real Madrid qui se mettaient ensemble pour lutter justement, pour se protéger contre des raquettes de banlieue.
Et donc ça veut dire un truc, j'avais interviewé il y a quelques années, une ou deux années, des policiers, des anciens commissaires généraux de police, etc., qui disaient ce qu'il fallait comprendre, c'est que les gens dans les banlieues considéraient la police comme une bande rivale. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas du tout la police comme l'expression d'un État souverain qui faisait régner l'ordre dans son périmètre. C'est que c'était des gens qui venaient intervenir où eux, d'habitude, avaient l'habitude de faire la loi. Et donc, ils les percevaient comme une bande rivale et ils trouvaient que c'était parfaitement normal d'essayer de leur casser la gueule et de casser la gueule à ceux qui les supportaient. Donc, on voit une fois de plus cette espèce de disparition du respect pour la chose publique.
Effectivement. C'est-à-dire que la loi de la Seine-Saint-Denis s'apparente de plus en plus à une loi étrangère.
C'est pas une loi, c'est une espèce de... Parce que je peux vous assurer un truc, c'est que s'il y avait un grand match qui se passait à Alger, il n'y en a pas un qui aurait bougé une oreille. Hein. C'est-à-dire qu'on a élevé chez nous toute une classe qui se fait gloire de ne respecter, de ne jamais respecter la loi française. Ça fait, ça fait, c'est leur but.
Ce que j'ai trouvé aussi absolument génial, c'est que du coup, au moment où on tourne cette émission, hier, il y avait une commission du Sénat devant laquelle donc la ministre des Sports et Gérald Darmanin devaient répondre. Et donc, j'ai vu quelques extraits et c'est absolument incroyable. En vrai, les éléments de langage qui sont utilisés. Par exemple, à un moment, Gérald Darmanin dit « Oui, enfin quand même... le préfet de police de Paris a dû gérer pendant quelques jours la présence de milliers de supporters anglais sur notre sol. » Donc là, on invoquait quasiment la mémoire de Jeanne d'Arc et Charles VII pour bouter les Anglais hors de France. Vous comprenez, quelques milliers d'Anglais sur notre sol, c'était beaucoup trop. Alors que je rappelle qu'on ne sait pas combien d'habitants il y a en Seine-Saint-Denis. On ne sait pas combien il y a de clandestins sur le territoire français. C'est-à-dire que selon les rapports parlementaires, les derniers rapports parlementaires, il y aurait aujourd'hui en France entre 400 000 et 1 200 000 clandestins en France, sur notre territoire.
Je suis prêt à prendre le pari que sur ces 400 000 ou 1 million, il y a 99% qui sont des hommes.
Oui, tout à fait. Il y a une écrasante majorité d'hommes et généralement, ils se comportent pas très bien. Donc, on a beaucoup, évidemment, d'histoires d'agression, etc. Alors que, à l'inverse, j'ai vu, alors c'est peut-être pas tous les supporters anglais qui étaient comme ça, mais j'ai vu des vidéos de supporters du Liverpool qui, là, à Paris, dans les fan zones et tout, après leur passage, se bourraient un petit peu la gueule dans la rue, mais derrière, ramassaient leurs déchets et les mettaient dans les poubelles. Ce qui est quelque chose qu'on voit pas forcément partout et surtout venant de la part de beaucoup d'immigrés clandestins.
Mais c'est un signe tout à fait étonnant de... Bah, vous savez, on dit que l'État, c'est ce qui a le monopole de la violence légale. Eh bien, à l'évidence, maintenant, il y a des gens qui considèrent qu'ils ont le droit d'exercer une violence quand ils sont dans la Seine-Saint-Denis. Mmh. C'est-à-dire que ça n'est plus... La France n'est plus un État de droit. Mmh. Puisque le droit, celui qui est chargé de faire respecter le droit, c'est-à-dire les forces de police, est attaqué. Donc on essaie, c'est les prémices d'une guerre civile.
Et c'est aussi, alors, de manière extérieure, c'est un paradoxe, mais en réalité, c'est plutôt une logique de la gestion de l'État. C'est-à-dire que l'État, en même temps, se veut absolument partout, dans tous les domaines de la société, et en même temps, il n'est pas suffisant là où il doit être le plus fort.
Et la façon dont ils ont attaqué aussi les forces de police, si vous voulez, attaquer les supporters anglais, où il y avait des familles, des femmes, des enfants, etc., à coups de grenades lacrymogènes, parce qu'ils ont aussi chargé sur les supporters anglais ou espagnols, c'est quand même assez étonnant, quoi. Moi, j'ai vécu donc 20 ans en Angleterre. J'ai jamais vu quelque chose de similaire. Donc c'est une espèce, vous savez, c'est de temps en temps il y a quelque chose qui n'a pas d'importance mais qui est révélateur. Je crois que c'est un de ces signes qui n'a aucune importance dans le grand ordre des choses, mais qui montre le délitement extraordinaire. Et normalement dans une société normale, ce qui est un pléonasme, mais normalement on aurait dû le préfet de police aurait dû démissionner, à tout le moins, et le ministre de l'Intérieur probablement aussi.
Évidemment. Alors moi, c'est une possibilité aussi que après les législatives, Macron organise un nouveau.
Oui, mais je veux bien qu'il organise un nouveau gouvernement, mais s'il remet pas Darmanin, ça sera pas pris comme une sanction. Il le mettra, je sais pas, aux affaires étrangères ou n'importe où. Mmh. Mais ça ne sera pas une sanction. C'est au moment où la faute se produit qu'il doit y avoir la sanction, pour que les gens comprennent la relation entre la sanction et la démission. Mais c'était même une question d'honneur personnel. Comment se fait-il qu'ils ne pensent pas à démissionner par eux-mêmes ?
Oui. Oui, c'est vrai que c'est assez nouveau. C'est-à-dire que même il y a quelques années, encore pas si longtemps, il y a 10-15 ans, par exemple, ça on en parlait aussi l'an dernier au moment des régionales, c'est-à-dire que traditionnellement, un ministre, quand il se présente aussi à une élection et qu'il la perd, il démissionne. Donc là, par exemple, l'an dernier, on avait des ministres qui étaient aussi candidats aux élections régionales. Je pense notamment à Éric Dupond-Moretti qui non seulement a perdu, mais qui s'est fait humilier en faisant, je crois, 10%. Donc il n'était même pas au second tour. Et il n'a évidemment pas démissionné.
Et ça, c'est donc on est en train de bâtir une société où, c'est ce que j'ai souvent dit ici, on a une espèce de classe qui est prédatrice, qui a pris le pouvoir et qui l'exerce sans aucun sens de ses responsabilités, ni d'un honneur qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Donc on a une mafia et qui, dans le fond, est désolée de s'être fait prendre la main dans le sac, mais ils ne sont pas désolés du résultat, ils sont désolés de s'être fait prendre. Quoi.
Oui, ils sont désolés de s'être fait prendre et ils vous accusent même de faire en sorte qu'ils se fassent prendre. C'est-à-dire que, par exemple, Darmanin, donc son narratif, c'est que les Anglais sont la cause de tous les malheurs du monde. Donc pour lui, il y a des agressions qui sont commises par des Anglais, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus mentir face au poids des images quand même, notamment face à la commission du Sénat. Donc derrière, ça devient, selon lui, nauséabond de rappeler les nationalités des pilleurs.
Donc, ils sont tous français.
Mais ils sont français.
Il y en a quelques-uns qui sont peut-être des irréguliers, mais là, ça veut rien dire, la nationalité.
Parfois, il y a des doubles nationalités aussi, mais effectivement, il y a des gens qui sont français administrativement parlant, qui sont, on va le dire quand même, très majoritairement originaires de l'Afrique du Nord. Et par exemple, on a les chiffres selon donc Valeurs Actuelles sur 48 gardes à vue qui ont été faites ce soir-là.
Ce qui est pas beaucoup.
Ce qui est pas déjà énorme face à l'ampleur de l'événement, mais bon, quand même. Il y avait seulement donc 2 Britanniques, aucun Espagnol, tout le reste sont des locaux, donc des locaux de Seine-Saint-Denis, ou clandestin. Les infractions visées sont vol avec violence, vol en réunion, vol à la tire, participation à un groupement armé, dégradation, intrusion, outrage, vol à la roulotte, recel et violence volontaire.
Bah oui, bah c'est donc l'ordre républicain n'est pas maintenu, quoi, c'est tout.
Ouais.
Et vous savez, c'est dans les évangiles, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, en même temps, ça n'existe pas. Donc, ou vous faites respecter le républicain, ou vous ne le faites pas respecter. Et si vous ne le faites pas respecter, vous arrivez à ça. Mais ça n'est que le début.
Mais je trouve que Darmanin aurait, je trouve, un peu nettoyé son honneur en admettant avoir fauté. Alors que là, il est vraiment dans une fuite en avant.
Ces gens-là ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés.
Mais je trouve ça fascinant quand même.
Non, mais on le voit très bien, ils n'admettent pas qu'ils se sont trompés.
Mais c'est-à-dire que plus ils se trompent, moins ils admettent s'être trompés.
C'est ils disent, et ensuite, ils disent, vous m'accusez parce que vous avez des pensées nauséabondes. Non, je vois pas. Mais la réalité, c'est que vous avez pas fait votre boulot, quoi, c'est tout. Mmh.
Effectivement, et d'ailleurs, on revient là-dessus sur un thème que la gauche aime bien explorer, qui est un thème totalement factice, qui s'appelle la récupération politique. En fait, la récupération politique,
c'est la mise en responsabilité de ceux qui ont fait une faute.
Et c'est aussi la constatation, notamment dans le cadre de faits divers, de faits, généralement de la part de la droite, qui montre qu'en fait, elle a raison. C'est-à-dire qu'on dit une certaine chose, qui d'ailleurs est tirée de la réalité, c'est-à-dire qu'on observe comment se comporte la société, on en déduit un certain diagnostic. Ensuite, la société illustre qu'on a raison de faire ce diagnostic, puisque d'abord on l'a fait en regardant justement l'état de la société, et ensuite on nous dit vous faites de la récupération politique. Mais c'est normal, puisque on tire justement nos conclusions des faits, donc forcément les faits ressemblent à nos conclusions.
Mais on revient à quelque chose qu'on a souvent discuté ici, c'est qu'il y a des faits de gauche et des faits de droite.
Mmh,
donc,
effectivement.
Donc ça fait partie des faits que la gauche ne vous permet pas d'utiliser, parce que les responsables sont des gens qui sont nés innocents, tandis que nous sommes nés coupables. Mais à partir du moment où vous déclarez que des gens, quoi qu'ils fassent, seront toujours innocents, ils feront n'importe quoi.
Alors, donc sujet suivant, on a déjà bien couvert donc le sujet de la Seine-Saint-Denis et des derniers événements. Donc on va parler un petit peu d'économie. On a une inflation, donc il y a pas si longtemps encore, sur un an, donc on parle de l'inflation sur un an à chaque fois, sur 12 mois. Elle était à 4,8, aujourd'hui elle est apparemment à 5,2. La croissance d'ailleurs, je crois, est même d'ailleurs une récession à 0,2.
On est à zéro de croissance depuis 6 mois.
C'est ça. Donc, et en parallèle, c'est en même temps un petit peu logique et prévisible, je crois que vous le disiez d'ailleurs, Christine Lagarde annonce la possible montée des taux d'intérêt en septembre. Alors, quelles conséquences ça va avoir concrètement, cette remontée des taux d'intérêt ?
Vous savez, c'est toujours Remonter des taux d'intérêt. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que les taux d'intérêt sur le 10 ans français, c'est-à-dire les obligations, doivent être légèrement au-dessus de 1% ou 1,2 ou 1,3. L'inflation est à 5,2. C'est-à-dire que celui qui achète une obligation française, si vous en avez dans vos assurances vie, n'oubliez pas de les vendre, il perd 4% de son capital par an. C'est-à-dire que son capital, qui valait 100, vaut aujourd'hui en termes réels 96. Quoi. Donc il s'appauvrit. Et donc, comme quelqu'un s'appauvrit sur une obligation, ça veut dire que celui qui lui a prêté s'enrichit. Donc on transfère, c'est une forme d'impôt déguisé, on transfère par l'inflation des revenus du pauvre gars qui a une assurance vie à Perpignan, vers l'État français qui a payé moins. Bon. C'est là, les gens qui ont les assurances-vie sont souvent des gens qui ont des revenus assez faibles. Hein, donc, c'est d'une injustice sociale totale. Et donc, quand ils ont commencé à suivre une politique inflationniste il y a 3 ou 4 ans, j'ai pas arrêté de gueuler en disant « Mais vous vous rendez pas compte à quel point l'inflation est un impôt sur les pauvres. » Et donc, aujourd'hui, la charge fiscale sur les pauvres est en train d'augmenter dans des proportions gigantesques à cause de l'inflation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, comme les pauvres s'appauvrissent, encore une fois, et ça fait un petit moment que ça a commencé, vous risquez d'avoir des gilets jaunes puissance 10. Quoi. Mais là, je suis bien tranquille que la police saura taper avec beaucoup de vigueur.
Oui. Mais d'ailleurs, elle a su taper sur les supporters anglais. Hein,
ah oui,
dès qu'il fallait, c'était les mêmes flics, peut-être avec des ordres différents, mais derrière, c'était pas forcément les mêmes sur lesquels fallait taper. Ils sont tout à fait compétents pour le faire.
Oui, et c'est-à-dire que là, encore une fois, ça veut dire que la police est perçue comme un soutien objectif et volontaire au maintien au pouvoir de cette classe prédatrice et criminelle.
Bah oui.
Et donc, la police va se faire de plus en plus détester.
Malheureusement, oui.
Et c'est pas possible autrement.
Mais c'est justement quelque chose qui m'énerve profondément, parce que, déjà, premièrement, on a quand même la tradition à droite d'aimer un petit peu l'ordre, et donc ce qui le représente le mieux, c'est les forces de l'ordre, la police. D'autre part, la plupart des policiers pensent à peu près comme nous, ils voient justement ce qu'ils voient, ils ont conscience des réalités, beaucoup votent pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour, en majorité d'ailleurs, mais derrière, ils restent néanmoins le bras armé de l'État, et c'est quand même quelque chose qui me flingue, parce que mine de rien, on est censé être dans le même camp. Et dès qu'il y aura des gilets jaunes et tout...
La police ne peut pas désobéir aux ordres.
Évidemment.
Donc ils sont obligés de désobéir aux ordres. Mais celui qui devrait aller en prison toutes affaires cessantes, ou à tout le moins être mis en... C'est le préfet de police de Paris.
Oui, mais ça on est d'accord.
Ouais. C'est lui qui devrait être... c'est lui le véritable responsable, et c'est lui qui donne ces ordres-là. Mais je ne doute pas qu'il est... Il va pas être viré, et que sans doute il va être nommé dans des conseils d'administration importants pour faire une fin de carrière honorable. Donc on a, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est gouverné par une espèce de mafia sicilienne qui a pris le contrôle du bras armé de l'État, là, que ces gens-là peuvent pas faire autrement qu'obéir. Mais je me souviens à la fin de la 4ème République, quand ça allait vraiment mal, j'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans, la police s'est mise en grève. Elle refusait d'obéir au pouvoir politique. Et quand la police se met en grève, si vous voulez, on peut dire que c'est la fin d'un régime, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, il n'est pas exclu que peut-être la police se mette en grève, refuse les ordres.
Oui. Moi, je les encourage, en tout cas, à le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est de
vous
plus
avez pas
en
le droit
plus...
de le faire, parce que c'est de... Mais vous pourriez dire que vous serez pas surpris si ça devait arriver, mais de les encourager à le faire... Vous risquez de vous faire poursuivre devant les tribunaux. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Ah oui, on peut pas, même si je suis pas flic, je peux pas appeler les flics à faire grève.
Non, vous allez vous faire gronder.
Merde, dommage.
Enfin, je vous le dis, parce que il faut toujours choisir ses mots, mais non, vous risquez de vous faire gronder parce que c'est un appel à l'insurrection de l'ordre républicain, et là, vous serez poursuivi.
D'accord. Bon, alors, je les encourage pas à le faire, mais s'ils le font quand même, je ne serai pas surpris ni particulièrement mécontent.
il faut tout leur enseigner à ces jeunes, vous savez.
Moi, je viens de débarquer dans ce monde, hein, je connais pas grand-chose. Ensuite, on a autre chose. Alors, pareil, les effets sont en réalité anecdotiques, mais ça a une importance malgré tout. C'est la fin Donc le verdict du procès entre Amber Heard et Johnny Depp, donc de quoi était-il question ? Il y a quelques années, Amber Heard avait reproché à Johnny Depp notamment des faits de violence conjugale, ce qui a eu pour conséquence d'entamer un peu violemment la carrière justement de Johnny Depp. Donc il avait plusieurs sociétés de production qui ne voulaient plus travailler avec lui, notamment Disney, dans le cadre de son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Néanmoins, il a gardé quand même des partenariats avec Dior, par exemple, qui n'ont jamais cessé de travailler avec lui. Et donc, de quoi était-il question ? Il était question de diffamation de la part d'Amber Heard et de la question de est-ce que, oui ou non, ça avait entaché la carrière de Johnny Depp. On a vu, je pense pour beaucoup d'entre nous, certains extraits, certaines images qui sont quand même, je dois dire, assez représentatives du procès où Amber Heard se défendait très mal, jouait assez mal la comédie. Et donc le verdict final, c'était Amber Heard est coupable, elle doit 15 millions d'euros à Johnny Depp. Johnny Depp en retour lui doit 15 millions de dollars, pardon, pas d'euros. En retour, Johnny Depp lui doit 2 millions, donc on a une balance de 13 millions de dollars. Je vous rassure, ça va aller très bien pour Amber Heard, qui est très riche et qui est même l'actrice la mieux payée. Pas pour ses faits d'actrice d'ailleurs, mais de fait pour ses placements notamment. C'est l'actrice la mieux payée en 2022, donc ça va aller très bien pour elle. Donc, qu'est-ce que ça dit, cependant, surtout dans le contexte un peu post-MeToo ? C'est un peu un stop, non, à quand même.
Il y a un peu ça, et il y avait toute une série de crétins qui, dans la presse, etc., dont des hommes politiques, d'ailleurs américains en particulier, qui disaient de toute façon, une femme doit être crue quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse. C'était pas ce qui ressort, par exemple, du Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais, oui, donc, j'imagine que les femmes ne mentent ni plus ni moins que les hommes, quoi. Ils doivent être à peu près distribués selon une courbe de Gauss, quoi. Normalement, c'est la courbe en chapeau de champagne, gendarme. Mais il y avait une espèce maintenant de. Comme le mal incarné, c'était le mal blanc, vous savez, vous et moi, quoi. Eh bien, donc, si quelqu'un disait du mal d'un mal blanc, il était automatiquement dans la vérité, le mal blanc était automatiquement dans l'erreur en essayant de dire que c'était pas vrai. Ben là, pour une fois, il y a eu un mal blanc qui s'est révolté, qui a porté plainte et qui a gagné. Mais où va-t-on, bon monsieur ?
C'est la débandade.
Mais c'est effrayant. Si maintenant les femmes de mauvaises intentions ne peuvent plus se venger en foutant en l'air la carrière du type qu'elles aiment plus.
Où est-ce qu'on va ?
Où est-ce qu'on va ? Donc si les femmes ne sont plus des êtres absolument désincarnés et à qui il arriverait de dire des mensonges, je ne sais pas vers quoi on va. C'est-à-dire que c'est un rappel assez curieux que. Vous n'êtes pas responsable d'être né blanc, noir, homme, femme, etc., mais vous êtes responsable des faits que vous avez commis. Eh bien, c'est un rappel de ce qui est le fondement de notre civilisation, c'est-à-dire la responsabilité individuelle.
Oui.
C'est tout, moi je trouve ça au poil.
Oui, bah oui. Évidemment, c'est bien normal. Mais effectivement, ça avait pris une ampleur déjà médiatique du fait des personnalités, mais effectivement, ça c'était aussi un symbole, effectivement, de la potentielle parole de la femme, jusqu'où peut aller la parole de la femme, jusqu'où la femme peut-elle être crue, et à partir de quoi, surtout face à un homme blanc, et d'ailleurs ça fait écho à une des pièces à conviction qui a été présentée pendant le procès, à savoir un enregistrement où Amber Heard dit à Johnny Depp, mais est-ce que tu crois vraiment qu'on va te croire, toi, un homme, au tribunal ? C'est-à-dire qu'elle l'avait enterré d'avance, elle s'était dit... c'est bon, on a eu MeToo, maintenant je suis une femme, je peux dire n'importe quoi, je peux reprocher n'importe quoi à partir de n'importe quoi à un homme, parce qu'on ne va plus jamais le croire. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a des réactions de certaines féministes, alors pas beaucoup quand même, parce que Amber Heard fut tellement mauvaise dans sa défense que quand même elle est difficilement défendable. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent voilà, maintenant on ne croira plus la parole des femmes. Mais non, c'est pas vrai. Alors parfois ça existe encore, hein. Il y a des femmes qui ne sont pas crues alors qu'elles ont raison. Et c'est évidemment dramatique. Mais là, si on avait cru Amber Heard, ça aurait été dramatique justement pour ce que la justice incarne normalement dans notre civilisation.
Ben, la justice, c'est un principe, si vous voulez, c'est l'égalité de tous devant la loi, que vous soyez un homme ou une femme, vous serez traité pareil, quoi. Et là, tandis que là, le procès, elle faisait un procès en pensant qu'elle avait un biais en sa faveur parce qu'elle était une femme.
Effectivement.
Et ça, c'est quand même très gênant, quoi. C'est comme... donc on peut pas... Je trouve que c'est un peu un... Allez, une sonnerie de rappel, quoi.
Alors, c'est peut-être pas la toute fin du feuilleton néanmoins, puisqu'il est assez probable que Amber Heard fasse appel de cette décision, puisqu'elle a perdu. Cependant, si on a la suite en appel, ce sera probablement dans quelques années, dans 2-3 ans, peut-être avant. Mais ça coûte très cher, mais elle peut se le permettre.
Elle peut se le permettre, mais à force de faire des procès qu'elle perd... peut-être elle aura peut-être un petit peu moins d'argent. Et puis peut-être oui. Les gens vont peut-être la payer un peu moins parce qu'elle n'a pas, déclenché des vagues de sympathie très fortes dans le public américain.
Effectivement.
Alors que Johnny Depp, c'est un bon zic, quoi.
Oui, et puis non seulement c'est une star absolue, mais en plus de ça, il a plutôt une bonne réputation dans le privé. Et d'ailleurs, toutes ses ex-femmes ou toutes ses ex-copines qui ont témoigné en sa faveur, en disant jamais, absolument jamais, il n'a levé la main sur moi.
Et puis en plus, vous savez, avec son costume de pirate des Caraïbes, là, il est allé je sais pas combien de fois dans les hôpitaux pour aller voir sans que personne ne lui demande rien, pour aller voir les enfants qui étaient cancéreux, etc. Donc, moi, je le regarde, ça a l'air d'être comme ça, vu de loin, avec la façon dont il disait bonjour aux gens. Ça a l'air d'être une bonne pomme, quoi.
Oui, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt sympathique.
Non, mais ça a l'air d'être, honnêtement, un brave garçon.
Ouais.
Je dis pas qu'il a... C'est peut-être pas le couteau le plus affûté
du tiroir,
mais il avait l'air d'un bon gars, quoi.
Oui, effectivement. Effectivement. Donc, sujet suivant. On va conclure avec ça, je pense. Jean-Luc Mélenchon a proposé à certains économistes, il n'a pas nommé, il a dit voilà, s'il y a des économistes, s'il y a des libéraux qui veulent débattre avec des économistes de la NUPES, donc ils sont les bienvenus. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la plupart du temps, pour eux, des libéraux, c'est des gens comme Nicolas Bouzou ou d'autres qui suivent Emmanuel Macron. Donc je pense que quand ils vont vous voir, ils vont vous faire une attaque cardiaque, mais vous proposez, vous dites, s'ils veulent un débat avec moi, je suis parfaitement ouvert.
Mais évidemment, moi vous savez, j'ai, comme les gens le savent ici, je suis un joueur de rugby, je l'ai été dans ma jeunesse, et j'ai essayé d'aider le rugby dans la mesure de mes possibilités à Biarritz, ce qui n'est pas facile parce que la mairie ne nous aide pas, mais enfin c'est un autre débat. Et donc il y a le pays du rugby le plus, c'est l'Irlande, et l'histoire raconte toujours qu'il y avait une bagarre dans un bar en Irlande, hein. Puis un type qui arrive de l'extérieur et qui dit « Dites-moi, c'est une bagarre privée, ou est-ce que je peux y aller aussi ?» Si monsieur Mélenchon a envie de m'inviter pour débattre avec lui, mais je ne vais pas débattre avec un de ses sidekicks, je ne vais pas parler à M. Piketty, je ne vais pas m'abaisser à ça, mais ce n'est pour lui dire que ce qu'il va faire, c'est simplement ce qu'il a essayé au Venezuela, au Castro, au Chili d'Allende, qui avait amené à une guerre civile et à la prise de contrôle par des militaires. Donc, si vous voulez, si ça l'amuse et si on peut parler tranquillement sans qu'il se mette à crier partout, parce qu'il est assez violent dans ses paroles, M. Mélenchon, si on peut débattre entre des gens de bonne compagnie, ce dont, une fois encore, je doute, parce que M. Mélenchon n'est pas un homme de bonne compagnie, je l'ai vu, par exemple, insulter des pauvres gens quand il était du côté du palais de justice, etc., il avait poussé des cris en disant à ces types, à ces séides, d'aller lui casser la gueule. Donc, M. Mélenchon, c'est tout sauf un être gentil, il est fondamentalement méchant, en bon joueur de rugby... Je veux bien aller lui mettre deux claques s'il peut m'en mettre deux aussi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est sur le simplement le fait en disant, écoutez, oui, moi, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre l'économie. Vous, je vois pas très bien ce qui vous permet de parler d'économie. Je vois pas ce qui vous donne le droit moral d'expliquer pourquoi vous pouvez piquer du pignon à des gens qui l'ont gagné dans le cadre de la loi pour leur enlever. Qu'est-ce qui vous donne l'autorité morale, vous qui êtes élu depuis 58 ans et qui n'avez jamais rien fait d'utile à la nation? Donc, est-ce que vous avez créé un emploi dans votre vie? Non. Est-ce que vous avez...
Des emplois fictifs, peut-être.
Oui, il a créé des emplois fictifs, il a dû en créer. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui donne le droit à cette espèce de faux curé, là, de venir et de dire que lui, il a le droit moral de savoir comment les gens doivent dépenser l'argent qu'il a gagné? Qu'est-ce qui lui donne philosophiquement ce droit? Pourquoi pense-t-il que gagner plus d'un million d'euros par an, ou j'en sais rien, c'est complètement immoral? Qu'est-ce qu'il en sait, cet imbécile? Ce que je veux dire, c'est que c'est fondé sur un rapport absolument extraordinaire, c'est la jalousie. Donc cet homme pue la haine. On ne peut pas le voir sans sentir que cet homme, je ne sais pas, sa maman n'a pas dû l'aimer assez, ou il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, quoi. Il pue la haine. Ensuite, il a changé, puisqu'il y a 15 ans, il était assez violemment contre l'islamisme. Puis maintenant, il s'est dit, bon, pour que je sois élu, il faut que je fasse alliance. Donc,
ouais,
il faut faire
le dos rond.
Donc, non, mais il a fait une alliance objective avec les islamistes, qui sont ce qu'il y a de plus antiféminin. Je ne parle pas automatiquement de l'islam, je parle ici de l'islamisme. Antiféminin, anti-ordre républicain, etc. Donc, mais oui, un débat tous les matins. Je suis enchanté.
Donc, comment on peut vous joindre pour faire un débat avec vous, du coup?
Ah ben, ils ont qu'à appeler l'Institut des Libertés, mettre un email à n'importe qui. Nous, ils peuvent m'appeler, hein, c'est pas difficile.
Très bien. Le Rouen répondra. Alors.
Il a qu'à faire une annonce sur l'agence France Presse en disant je suis tout à fait d'accord pour accepter un débat avec. Mais je veux pas être avec 12 autres économistes.
Oui, bah oui. Oui,
c'est parce qu'il y en aura 11 qui sont tellement morts de peur qu'ils auront. Je me souviens un jour, j'étais. Il y a longtemps, c'était un moment où j'ai publié mes premiers livres. Je présentais ce livre dans une radio, je ne sais plus où c'était à Bologne, par là-bas. Et puis d'un seul coup, j'ai vu le journaliste tout excité, parce qu'il y avait Mélenchon qui venait d'arriver. Et je me suis dit, Mélenchon, c'est un gros crétin. Pourquoi le journaliste est-il excité à ce point-là, à l'idée d'avoir Mélenchon dans son studio? Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Donc, vous avez une espèce de révérence. Pour les crétins de gauche, il a quand même soutenu, les régimes massacreurs en Cambodge, au Vietnam, il a à Cuba, au Venezuela, des dizaines de milliers de peu. Donc, qu'est-ce qui vous donne l'autorité morale? Vous vous êtes trompé toute votre vie, surtout pour décider de la façon dont l'argent que moi j'ai gagné en travaillant comme une bête, que vous allez me l'enlever pour faire des choses qui vous plaisent à vous. Donc là, il s'autorise, lui qui n'a jamais gagné d'argent, qui n'a jamais rien fait d'utile, il va chercher l'argent de ceux qui ont bossé pour le donner à des gens qui ne vont pas contribuer au bien commun, mais qui vont l'aider à être élu, lui. Mais vous rendez compte de la gravité du crime ? Mais même intellectuellement, psychologiquement, philosophiquement, c'est l'envers de la démocratie. C'est de la démagogie la plus totale. Donc, discuter avec un démagogue, c'est jamais facile. Parce que le type, il se met à hurler au bout de 5 minutes. Moi, j'avais un professeur à Toulouse quand j'étais jeune, vous savez que j'ai fait mes études à Toulouse, qui disait, quand vous êtes discuté avec un homme en face de vous et que vous êtes en train de l'enfoncer logiquement, il va se mettre à hurler, se mettre en colère. Il va passer à l'irrationnel.
Oui, en plus, Mélenchon fait ça très bien.
Et Mélenchon fait ça très bien. Il vous accuse d'être de bouffer un petit bébé à tous les matins. Donc, c'est une crapule institutionnelle. Et ben oui, je veux bien discuter avec une crapule institutionnelle, mais je pense pas que je vais convaincre Mélenchon.
Oui, non, c'est
mais
sûr.
Par contre, je serais peut-être à prouver aux gens que c'est une crapule institutionnelle.
Mmh, effectivement. C'est vrai que face à lui, il y a souvent des gens qui sont assez peu pertinents pour lui répondre sur l'économie. Et ce serait très intéressant, je pense, un débat entre vous deux. Donc, écoute Jean-Luc, viens à la maison et...
Je le reçois ici.
Et on te recevra, voilà. Donc voilà, c'était la dernière chose dont je voulais parler. On est quand même presque à 40 minutes d'entretien maintenant. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir été attentif lors de cette émission et je vous enjoins à nous rejoindre sur nos pages, donc sur YouTube, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, dites ce que vous pensez. Rejoignez-nous aussi, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes partout en réalité. Donc,
Et on est maintenant sur les, comment ça s'appelle, les machins qu'on écoute dans sa voiture.
Ah oui, exact, on est en podcast, on est en podcast sur Spotify, il me semble.
Spotify,
je crois que c'est ça. Donc, nous sommes en podcast.
Et vous pouvez aussi aller sur le nouveau journal. Vous savez qu'on essaye de fournir une information populaire mais de qualité, parce que quand on dit populaire, les gens pensent que ça veut dire que c'est nul. Tandis que là, moi, on essaye de faire avec le nouveau journal une information populaire, c'est-à-dire qui intéresse le peuple, parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie, mais qui soit de qualité, qui soit pas sur ce qui se passe, je sais pas où.
Effectivement. Donc, et puis aussi, évidemment, sur le blog de l'Institut des Libertés, où il y a des articles.
C'est réservé aux meilleurs, ça.
C'est réservé aux meilleurs.
C'est-à-dire ceux qui veulent bien y aller.
C'est les plus gros cerveaux. où vous faites quand même un article chaque lundi. Vous publiez un article chaque lundi, donc qui est très souvent intéressant. Voilà.
Comment ça, très souvent?
Toujours, évidemment. Toujours
le rappeler, surtout à ces gamins. Quoi.
Toujours, mais parfois encore plus que d'autres. je vous enjoins à aller partout où nous sommes, à nous suivre partout où nous sommes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'opinion. Merci à tous.
Et le DAF est en train de s'en aller parce qu'il a compris que c'était fini.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci.